Bonjour, vous écoutez Radio FM Plus 91 FM. Aujourd'hui, en compagnie de la critique musicale Hélène Bertrand-Féline, Le Fil du Fer reçoit Jérôme Pilemant. Bonjour Hélène, bonjour Jérôme.
Bonjour.
Bonjour.
Que lit-on dans votre CV, Jérôme ?
On lit beaucoup de choses. Alors ça tout commence... Il faut raconter le début. Alors tout commence un petit peu comme dans beaucoup de familles dans les années 60. Il faut faire un petit peu de musique, apprendre la musique. Et moi, j'ai eu la chance, on m'a mis à la musique très très tôt. Je crois que j'ai appris à lire les notes avant de lire le texte. Et on commençait d'ailleurs à l'époque par ce qu'on appelait le solfège, ce qu'on appelle aujourd'hui la formation musicale. C'est un peu... Voilà, c'était un petit peu dur à l'époque parce qu'on n'avait pas encore le droit de toucher à l'instrument. On commençait à étudier moi je voulais étudier le piano. Enfin, on m'avait dit, hein, parce qu'à 4 ans, vous décidez rien du tout. On m'avait dit, t'apprendras le piano. Donc, j'avais appris le solfège, à lire en clé de sol, à lire en clé de fa. Donc, tout ça est très, tout ça arrive à beaucoup de monde, hein. Enfin, pour tous ceux qui ont la chance d'avoir des parents qui vous incitent à faire de la musique. Donc, voilà, je suis tombé dedans très petit. Et jusqu'à l'adolescence, ça s'est à peu près bien passé. Ça s'est gâté à l'adolescence, tout simplement parce que, paraît-il, j'avais quelques dons. Donc on me poussait à faire beaucoup d'heures de piano en rentrant de l'école. J'étais fils unique, donc l'amitié, les copains, les premiers copains, tout ça, c'est quelque chose d'important dans la vie d'un ado. Et alors j'étais face à mon piano et... À 12-13 ans, j'ai un petit peu craqué et j'ai laissé tomber le piano, j'ai laissé tomber la musique. Alors, pas complètement la musique, mais le piano classique pour faire de la musique avec des copains. Et là, je passais un peu de l'extrême inverse. On a quitté Mendelssohn pour aller dans le hard rock parce que c'était les années 75 et c'est le début des grands groupes de rock anglais, américains et néo-zélandais, en parlant d'AC/DC, par exemple, si vous voulez qu'on aille sur ce terrain. Voilà, et j'ai continué mes études. J'ai continué mes études au lycée. Alors, je suis c'était pas littéraire, j'étais plutôt un matheux. Et puis ensuite j'ai fait Mathsup, Mathspé, parce que je n'avais aucune idée quand je vois aujourd'hui les enfants qui ont dû rendre Parcoursup hier ou avant-hier, avant de passer leur bac. Moi j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. Et sauf qu'en fin de Mathsup, j'aimais quand même voyager, j'aimais la navigation, j'aimais beaucoup la navigation autour de la planète. Donc j'ai eu envie d'être pilote de ligne, de passer le concours de l'ENAC, l'École Nationale d'Aviation Civile, pour entrer comme pilote. Alors c'était un concours, on est à la fin des années 70, c'est le deuxième choc pétrolier, donc l'admission est très très sévère, et j'ai été refoulé à la visite médicale, pour un petit problème cardiaque, et du coup on m'a dit, vous n'aurez jamais le droit de piloter des avions de ligne, c'est fini pour ça, et j'étais donc vexé parce que, à 20 ans, qu'on travaille, qu'on fait des études, qu'on croit être en pleine forme, et j'étais en pleine forme, et je touche du bois, je le suis toujours, bien plus tard, je me suis retrouvé donc à pas savoir quoi faire, et un soir, je retourne au concert classique avec un ami, et c'était Scholti qui dirigeait l'Orchestre de Paris avec la Symphonie du Nouveau Monde. Là, tout ça est très classique. Et j'ai regardé cet homme sur scène, et j'ai eu un flash. J'ai vraiment eu un flash, mais un flash comme un gosse. C'était pas réfléchi. Je suis quelqu'un d'assez instinctif, et j'ai vu, mais j'ai dit, mais il fait de la musique avec les autres. Il fait pas de la musique tout seul ou devant son piano ou avec son violon. Il fait de la musique avec les autres. Et j'ai donc, du coup, j'ai eu envie de faire ça. Donc tout le monde m'a dit, c'est une énorme bêtise. Il faut s'y prendre tôt. Il faut avoir fait le conservatoire de jeune et tout. Et j'ai dit, et alors, j'ai 21 ans, on y retourne. Et je suis retourné au conservatoire en solfège avec des jeunes qui avaient 12-13 ans. Donc voilà, il y a un petit choc social, faut l'accepter. Et puis mes années d'études ont fait que j'ai eu la chance d'aller très vite dans mes classes d'écriture. Et puis je suis retourné au piano, mais là le piano c'était fini parce que j'avais vraiment arrêté de jouer. Et aujourd'hui avoir un niveau, et même déjà à l'époque avoir un niveau en piano, les pianistes qui arrivent aujourd'hui dignes de ce nom ont fait du piano 5 heures par jour depuis qu'ils ont 4-5 ans. Donc moi l'arrêt entre 13 et 20 a été un peu fatal à ma technique pianistique. Je savais très bien ce que je voulais entendre, mais les doigts répondaient pas. Donc j'ai dit, je vais essayer la direction d'orchestre. Voilà, on m'a foutu à la porte, je me suis débrouillé, j'ai fait mes études et voilà. Voilà le début. Enfin, voilà le début du début. Après, je vous rends la parole.
Donc, vous êtes chef d'orchestre. Et voilà. Seulement chef d'orchestre ?
Ben non, bah oui, enfin oui et non, mais oui, chef d'orchestre, c'est des métiers passion. C'est des métiers passion. Moi, ce que j'aime, c'est faire de la musique. Donc, vous avez compris que c'est de faire de la musique, partager la musique avec les gens, avec d'autres musiciens, mais surtout aussi avec le public. Hein. On est trois sur scène. Hein. Il y a le chef qui, lui, n'émet aucun son directement, et puis un orchestre qui joue et qui joue pour le public. Alors, j'ai commencé à définir, on en parlera peut-être plus précisément, le métier de chef d'orchestre. Parce que moi, surtout à cette époque-là, c'était l'époque des grands, grands chefs d'orchestre. Un petit peu, je pense à Karajan, qui était quelqu'un de c'était moi, je parle, vous vous taisez, on fait comme ci, on fait comme ça. Voilà, je pense que ça, c'est... Bon, d'abord, ça a bien changé. Et on verra pourquoi, d'ailleurs, ça a changé. Et puis, en fait, de faire de la musique, du coup, après, j'étais à l'opéra, et là, j'ai découvert le monde des chanteurs, le monde du chœur aussi, de l'oratorio. Donc, j'ai découvert toutes ces musiques, tous ces répertoires, et effectivement, à 20 ans, on est une éponge, et j'avais envie, en fait, de tout découvrir. Et je me suis jamais arrêté à ni à un style, ni à un genre, et ni à travailler avec des professionnels. Oui, bien sûr, toute ma vie, je travaille avec des professionnels, mais on va en parler, j'ai aussi travaillé avec les jeunes. Très tôt, je m'occupais d'un orchestre de jeunes, je me suis occupé d'orchestre de jeunes quand j'étais au conservatoire à Paris et quand j'étais ensuite dans mes études. Donc je faisais de la musique avec des jeunes, déjà transmettre cette énergie et ce qu'on avait appris toutes ces années au conservatoire, de les partager avec des jeunes. Moi, ce que j'ai eu envie, si j'avais eu un rêve dans la vie, c'est que tout le monde fasse de la musique, enfin de cette musique-là, tout le monde passe par la musique, quitte après à aller au rock, à la variété, au hip-hop, à tout ce qu'on veut, aux danses. Et j'ai aimé l'opéra, avec les jeunes, avec les professionnels, donc on va arriver à l'opéra junior, parce que l'opéra c'est un art aussi assez complet, c'était l'art le plus complet de la fin du 19e, du 19e siècle. Hein, on y chante, on y joue la comédie, on y danse, on y joue de la musique, voilà, il y a des musiciens interprètes, et donc c'était à l'époque, avant que le cinéma arrive, c'était quand même le spectacle le plus complet pour les gens, pour les musiciens, les comédiens, etc.
Pour préparer votre fil du fer, vous m'avez dit que chez le grand public, l'image du chef d'orchestre est galvaudée. Vous m'avez parlé du chef tyrannique, vous venez de le dire, qu'incarne Louis de Funès dans La Grande Vadrouille. Vous avez évoqué la superstar Karajan sur son voilier et dans sa Rolls-Royce. Pour vous, Jérôme Pillemant, le chef d'orchestre travaille avec, partage. En quoi aujourd'hui le rapport du chef à l'orchestre est-il différent de ce que vous avez connu plus jeune ?
Alors, il y a une raison historique tout simple. Je reviens à Louis de Funès dans La Grande Vadrouille, parce que moi, quand j'ai commencé, quand vous dites aux gens que vous êtes chef d'orchestre, alors à l'époque, on était quand même beaucoup moins nombreux. Quand vous dites, tout le monde vous regarde avec des grands yeux, et puis les gens font ça, alors je vais le faire comme ça, là, sur la table. C'est-à-dire, on prend la baguette et on tape sur le pupitre pour obtenir le silence et l'autorité. Et ça veut dire, taisez-vous, je parle. Et c'est Louis de Funès dans la fameuse scène de la marche hongroise de Berlioz, qu'il dirige lui-même dans le film. C'est les musiciens de l'Opéra de Paris qui jouent, ce n'est pas doublé, il n'y a pas quelqu'un. Il avait exigé de diriger lui-même. J'ai eu la chance de le rencontrer à la fin de sa vie. C'était un homme très, très, très musicien, très mélomane. Et il avait exigé, ça c'est pour la petite histoire, de diriger lui-même. Donc on entend la bande, la marche hongroise, jouée par Louis de Funès et l'orchestre de l'Opéra de Paris. C'est un clin d'œil parce qu'au cinéma, il y a souvent des doublures. Et pour des acrobaties. Et après, on le voit s'énerver contre ces pauvres bassonistes qui sont là, dans la fosse, qui sont très gentils et tout. Et cette crise d'autorité, c'était très mauvais, tout ça. Là, on est dans De Funès. Mais c'est un peu l'image que garde le grand public. Alors, du chef d'orchestre autoritaire. Et pour ça, je parle de Karajan, on le voyait diriger, il parlait. Déjà, il n'y avait pas de femme dans l'orchestre. Hein, donc aujourd'hui, il aurait quelques soucis. Et voilà, donc le chef d'orchestre était le patron, le chef d'entreprise. On a souvent, dans les années 80, voulu faire un parallèle entre le... Et aujourd'hui, d'abord, c'est plus ça. Alors pourquoi c'est plus ça ? Pour la première raison, c'est que les musiciens, depuis maintenant 100 ans, jouent la même chose. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le répertoire est un répertoire qui a 100 ans. Depuis 1930 à peu près, on a arrêté de jouer de la musique contemporaine. Alors, on n'a pas arrêté, on a continué, mais vous allez voir que c'est devenu une niche. Ce qui est intéressant, c'est que dans toute l'histoire de la musique, d'ailleurs de la période baroque, du Moyen-Âge, jusqu'au début du XXe siècle, on joue de la musique actuelle. À l'époque de Mozart, on joue Mozart. À l'époque de Bach, on joue Bach. À l'époque de Brahms, on joue Brahms. Et à l'époque de Stravinsky, là, ça va se terminer, on joue encore Stravinsky. Mais on ne jouait plus Bach. Hein. Enfin, on jouait encore un petit peu Bach dans les églises, etc. Mais on ne joue plus Vivaldi, par exemple. Et mais on ne va pas suivre, parce que le dodécaphonisme arrive, la musique se complexifie, et le public va revenir en arrière. Et parallèlement à ça, arrive la radio, arrivent les enregistrements. Et on va enregistrer la musique. Et là, ça va être d'abord un marché commercial. Tous les orchestres, tous les chefs, tous les chanteurs vont vouloir enregistrer le répertoire. Mais du coup, le répertoire qui plaît au public. Donc, on s'est arrêté à l'opéra, en gros, à Puccini, ou on était jusqu'à Pelléas de Mélisande, à Debussy, qui révolutionne en plus, qui casse un peu tous l'opéra classique. Et on va rejouer, on va revenir en arrière, on va rejouer Mozart. Puis on va rejouer la musique baroque dans les années 60, 70. C'est le début du baroque. C'est-à-dire, on rejoue Bach, mais pas que. On va aller chercher Purcell, Telemann, tous les grands compositeurs de l'époque. On va jouer sur instruments anciens pour essayer de voir comment, effectivement, les sonorités de l'époque. Et tout ce travail nous a occupés et a passionné le public. Donc, etc. Les radios, les maisons de disques se sont engouffrées dans ce système, ce qui fait qu'on a laissé la musique contemporaine un petit peu à côté, tout du moins pour le grand public. Et la musique contemporaine a continué à évoluer au XXe siècle, mais c'est un peu éloigné du public. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à l'époque, donc j'en reviens, il faut raconter ça pour pas perdre le fil. Le chef d'orchestre, à l'époque, lui, connaît la musique, il a travaillé la musique, mais les musiciens n'ont pas forcément, au début du XXe siècle, la culture de ce qu'ils sont en train de jouer. C'est de la musique contemporaine. Et pour eux, à ce moment-là. Et donc, quand, par exemple, Leonard Bernstein va rejouer Mahler aux États-Unis, il va importer Mahler aux États-Unis, les orchestres ne savent pas jouer Mahler, c'est pas au répertoire. Et il va leur expliquer comment on joue cette musique-là. Donc le chef a une importance énorme en termes d'éducation. Au jour d'aujourd'hui, prenons un chef d'orchestre qui est jeune, qui arrive qu'à 30 ans. Il a devant lui des musiciens qui ont 30 ans, qui ont été au conservatoire, qui ont été dans leur Hochschule en Allemagne, où ils ont appris tout, de Bach à Mahler, à Stravinsky, à Boulez et à Beethoven. Et ils ont appris tous les genres, tous les styles. Aujourd'hui, pour être musicien professionnel, il faut une culture immense, ce qui a déjà changé par rapport à il y a 40 ans. Donc imaginez, à 100 ans, les gens ne jouaient que la musique d'aujourd'hui, que leur musique de leur temps. Et donc aujourd'hui, un musicien, il est formé, il est complet, il arrive, il a une idée. Vous arrivez, il y a un jeune musicien qui arrive à l'orchestre de Montpellier, si on joue Sibelius, eh ben il va avoir appris à jouer Sibelius. Donc le chef d'orchestre va pas lui apprendre à jouer Sibelius, parce que sinon il va se prendre un fond de cour, mais il va essayer de lui dire moi j'aime jouer Sibelius comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aimerais que dans Mozart on aille dans cette articulation, on aille dans ce style. Et le chef d'orchestre devient quelqu'un qui n'est plus une espèce de patron autoritaire, mais ça devient un petit peu un directeur des ressources humaines. C'est-à-dire que les gens en face d'eux savent exactement ce qu'ils vont jouer en termes de culture. Et on va mettre, alors il y a tout le côté chef d'orchestre, on va mettre tout le monde ensemble, obtenir une sonorité, mais la position a changé, la position a bien changé.
À la suite de son fondateur, Vladimir Kojoukarov, pardon si j'ai mal prononcé le nom, vous prenez la direction d'Opéra Junior. Vous m'avez dit qu'Opéra Junior est une structure innovante et unique en France. Pourriez-vous en dire plus et dire quel y est votre rôle ?
Alors, je vais vous corriger sur une chose. Vladimir Kojoukarov a créé Opéra Junior, qui était une structure innovante et unique en France à l'époque. C'est-à-dire qu'au lieu de faire... Il y a des maîtrises en France, on va appeler ça des maîtrises, des chorales, des chœurs d'enfants, mais les jeunes sont là pour apprendre le chant, principalement le chant, le chant, le chant. D'abord parce que par rapport au monde anglo-saxon, là aussi on a des kilomètres de retard. En Angleterre, on chante à l'école, en Allemagne, on chante à l'école, et en Espagne, on chante à l'église, et donc on chante tout le temps. En France, c'est un peu moins évident, de fait qu'on chante moins à l'école parce qu'il y a des conservatoires. Alors, Voilà, ça c'est merci Napoléon, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Mais du coup, on ne fait que chanter quand on chante en France, les jeunes. Hein, et lui, Vladimir, il est arrivé, il m'a dit, pourquoi on ne ferait pas chanter, bien sûr, des jeunes, ok, mais leur faire jouer aussi la comédie de l'opéra, c'est-à-dire les mettre en scène, leur faire découvrir le travail avec un metteur en scène, les faire danser. Des fois, dans l'opéra, il y a de la danse. Donc, il va y avoir un chorégraphe. Et puis, voilà, donc là, c'était unique. Et ça m'a plu parce que, justement, d'abord, moi, j'ai toujours fonctionné, je vous l'ai dit au début, un peu, sinon par caprice, du moins par coup de foudre. Et je pensais pas, moi je connaissais Opéra Junior depuis, j'ai travaillé à Montpellier, donc je connaissais Vladimir, je connaissais son travail. Il est parti à la retraite, on m'a proposé de candidater. Et au début, j'étais pas sûr, puis je dis, bah si, j'aime travailler avec les jeunes, j'aime l'opéra. Tout ce que j'apprends moi quand je vais diriger un opéra quelque part, eh ben, je vais avoir quelque chose à leur raconter quand je reviens. Le côté organisation, directeur artistique au sens on met les mains dans la terre et on construit quelque chose, ça aussi ça fait partie de mon ADN. Donc voilà, on s'est retroussé les manches et on a développé un Opéra Junior. Quand je suis arrivé, j'ai fait en sorte que tous les jeunes puissent avoir accès à un metteur en scène, puissent avoir accès à des chorégraphes, à des costumiers et vivent l'expérience du spectacle vivant. Donc je dépasse même le cadre de l'opéra. Et grâce à l'Opéra National de Montpellier, parce qu'au départ, Opéra Junior était une asso indépendante, grâce à l'Opéra de Montpellier qui a absorbé il y a 15 ans maintenant Opéra Junior, nous avons les portes sont ouvertes et nous pouvons travailler. En fait, les enfants d'Opéra Junior sont les enfants des employés de l'Opéra de Montpellier, quelque part. Quand ils viennent faire leur production, on va parler de Bellongins tout à l'heure, tous les ans, maintenant 3, 4, 5 fois par an, quand ils rentrent dans le théâtre pour une production, ils sont accueillis par les professionnels. Et c'est un peu l'opéra de demain aussi, ces jeunes, parce qu'ils ont une vision peut-être différente de nous. Et on va travailler dans ce sens-là, avec des metteurs en scène, etc., leur faire découvrir. Et puis, on leur donne un peu les clés de l'opéra. Bah, allez-y, qu'est-ce que vous voudriez faire? Alors, pas qu'est-ce que vous voudriez faire, mais qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils ne sont pas comme nous, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Ils ont leur propre idée. Et on les emmène comme ça vers le spectacle vivant avec. Donc c'est une pratique amateur, ça j'y tiens. Amateur, celui qui aime, ils viennent là par amour de la musique, par amour de l'opéra, par amour du théâtre, mais un encadrement très professionnel.
C'est le moment de la pause musicale. Jérôme, vous avez choisi de faire entendre le final de l'opéra Belongings de Lewis Murphy, qui sera joué vendredi 19 et samedi 20 avril à l'Opéra Comédie de Montpellier. Nous allons entendre la version anglaise. Vous êtes sur Radio FM+, vous écoutez le fil du fer de Jérôme Pileman, chef d'orchestre et directeur artistique. Une question. à propos de l'éducation musicale. Vous m'avez dit n'avoir jamais enseigné la musique. Néanmoins, quelles sont vos idées sur l'éducation musicale, le monde professionnel musical, et en quoi Opéra Junior concrétise-t-il ses convictions ?
D'accord, donc je n'ai jamais enseigné la musique dans les conservatoires, en France. Voilà. Je suis intervenu, comme tous les musiciens, on le fait toujours avec plaisir, parce que la rencontre avec les jeunes, vous l'avez compris, était importante pour moi. Je suis intervenu pour des masterclass avec des classes d'orchestre dans les villes où j'ai dirigé, en particulier aussi à Montpellier où je réside. Et par contre, on a envie de transmettre qu'on est musicien. Et ça passe pas forcément par une carrière pleine de chacun fait un peu comme il le sent, mais d'enseignants. Mais à Opéra Junior, c'est une forme. J'essaie de leur apprendre ensemble à faire à participer à des opéras. Donc mon honneur est sauf. Je suis un peu critique avec l'enseignement de la musique en France, quoique maintenant ça y est, nous sommes arrivés avec un cursus professionnel vraiment efficace, mais pas depuis très longtemps, depuis une quinzaine d'années, parce qu'avant, le problème du conservatoire, c'est que la musique, elle n'était pas à l'école, elle était au conservatoire, et ça, quand je disais merci Napoléon, c'était pas une bonne idée, parce que moi j'aurais préféré que la musique soit à l'école, soit au collège et soit au lycée, c'est-à-dire dans le lieu, dans le bâtiment, et que la musique soit accessible à tous, par l'école, le collège ou le lycée. La démarche d'aller au conservatoire est une démarche sociale qui est déjà discriminante au départ. Donc on s'en est aperçu, hein, et les choses ont évolué, mais quand même, aujourd'hui, inscrire son enfant au conservatoire, c'est quand même un petit peu compliqué. Et puis là où il y avait une hypocrisie à l'époque, c'est que le conservatoire s'est fait pour enseigner la musique à des jeunes qui vont être, bon, 10% vont devenir professionnels ou 5% vont devenir professionnels, et les choses le font par plaisir. Encore une fois, la musique amateur est quelque chose de très important pour moi. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'un professeur ou un directeur de conservatoire va vouloir se consacrer aux élèves qui vont vouloir aller plus loin. Et donc, du coup, il y a une petite trahison, là. Et parce qu'on est directeur, on est professeur, on a envie que ses élèves... Ben, c'est normal. On a envie que les élèves aillent au Conservatoire National Supérieur. C'était hyper pyramidal avant en France. Hein. Il y avait les écoles de musique, les conservatoires des grandes villes, hein, qui préparaient au Conservatoire National Supérieur de Paris. Et puis, il y a eu Lyon, maintenant. Bon, après, il y a des autres écoles en Europe, parce que tout ça s'est mondialisé. Et voilà, mais ça y est, maintenant ça va un petit peu mieux, c'est un peu mieux organisé. Avant, on était obligé d'aller à la fac en même temps, c'était compliqué de faire le conservatoire et la fac. Il y avait une compétition entre moi j'étais à la Sorbonne en musicologie en même temps que j'étais au conservatoire à Paris. C'est que tout ça est quand même un petit peu complexe. Tout ça maintenant est mieux organisé, mais on n'a pas résolu le problème. Je voudrais que tout le monde ait accès à la musique.
Et maintenant, je vous laisse avec Hélène.
Alors justement, pour rebondir sur les conservatoires et l'Opéra Junior, comment se fait ce recrutement ? Est-ce que vous échappez un peu à ce critère d'excellence ? Est-ce que le recrutement est plus démocratique ? Il offre plus de possibilités ?
Alors, je ne veux pas dire que le recrutement au conservatoire n'est pas démocratique. On s'inscrit. D'ailleurs, quand on s'inscrit dans les petites classes au conservatoire, c'est en fait il n'y a pas d'audition, il n'y a pas de concours d'entrée, hein, pour les jeunes. Il faut souvent faire la queue à 4 heures du matin le jour des inscriptions. Donc, faut pouvoir, hein, faut avoir cette volonté d'inscrire son enfant au conservatoire. Donc, il y a très peu de places, il y a énormément de demandes. Donc après, c'est un vrai problème politique. Est-ce qu'on veut vraiment avoir un conservatoire ? Parce que tout ça coûte énormément de l'argent, c'est de l'argent public. On sait qu'en ce moment, on parlait d'une crise de la culture, donc une crise de l'éducation musicale, c'est évident. Dans une ville comme Montpellier, le conservatoire devrait être déjà deux fois, trois fois plus grand. Mais tout ça coûte énormément. Opéra Junior, je dirais que c'est un petit peu plus facile parce qu'on n'a pas les contraintes du... les conservatoires sont très régulés. Il y a ce qu'on appelle des schémas directeurs. Un directeur ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut qu'il suive des choses. Nous, on est un peu plus libre parce que, d'abord, on n'est pas une école. On ne va pas donner de diplôme à la fin. Et moi, à la fin, si des jeunes veulent devenir professionnels, bah, ils iront dans un grand conservatoire. Donc, au contraire, on accompagne. Et moi, le but, et ça s'est plus ou moins passé à Montpellier, par exemple, avec le conservatoire, c'est qu'il y a des tas de jeunes qui sont et au conservatoire et à Opéra Junior. Par contre, il y a des tas de jeunes qui sont au conservatoire qui ne viendront jamais à Opéra Junior. Et le contraire, évidemment, vrai. Il y a des jeunes qui viennent à Opéra Junior. Parce que nous, on a une approche, on n'est là pas pour leur apprendre quelque chose, on est là pour leur faire vivre une expérience. Alors bien sûr, il y a de la formation. On ne peut pas vivre une expérience, on va mettre un gamin, une gamine sur scène, sur la scène de l'Opéra Comédie, faut chanter, en mesure, regarder le chef, avec un orchestre. Mais en fait, ils font des spectacles. Nous, on fait des spectacles. Après, ça leur fait des souvenirs, puis on verra qu'Opéra Junior a aussi une influence sociale énorme. Moi, j'ai fait très attention au groupe, à la notion de compagnie, de groupe, de troupe. Hein, chose qui, là où l'opéra a été souvent dans le répertoire stadion et pyramidal, c'est le meilleur qui chante, hein, c'est le meilleur qui a le rôle. Hein. Nous, ce n'est pas ça, Opéra Junior. Bien sûr, ceux qui sont les plus motivés auront des rôles peut-être plus importants une fois, mais l'année d'après, c'est les petits camarades qui sont peut-être moins doués, mais qui auront le rôle. Et tu resteras dans le cœur. Parce que ce n'est pas une punition d'être dans le cœur, c'est d'être dans le groupe. Donc j'aime cette notion de troupe, de groupe, comme il y en Allemagne, hein, ça on le connaît dans le système de répertoire allemand. Et ça pour moi, c'est là la grande différence. Après, les gens vont se former au conservatoire, mais ils viennent chez nous jouer et nous sommes assez libres. Et en fait, nous jouons à un opéra senior avec des juniors. Voilà, on fait de l'opéra. Moi, ça a été ma démarche. Nous faisons de l'opéra.
D'accord. Et donc, le recrutement de l'opéra junior se fait comment ?
Alors, se fait pour les primaires. Alors, on va même avoir des classes de maternelle à partir de l'année prochaine, parce qu'on commence de plus en plus jeune pour accueillir les jeunes. Mais même, par exemple, ce ne sera pas que de l'éveil musical. En maternelle, ils vont tout de suite être mis en contact avec un chef de chœur et un chorégraphe ou quelqu'un qui va les faire bouger, entre guillemets. Avec une notion de scénographie, avec des choses comme ça. Donc on fait ce travail-là. Jusqu'au collège, c'est sur inscription. Alors oui, effectivement, c'est le premier inscrit. Il y a quand même presque une centaine de jeunes. Il y aura pratiquement une centaine de jeunes.
Une centaine de places.
Une centaine de places entre la deuxième section de maternelle. On ne prend pas la première, on commence à la deuxième section de maternelle. On parlera, on a cette année une école maternelle pilote, Francis Granier, où voilà, on commence à savoir, parce qu'il faut qu'on apprenne nous aussi à s'occuper de ces jeunes à cet âge-là. Et on va jusqu'à le primaire. Donc ça, c'est le primaire, c'est déjà une centaine de jeunes. Là, c'est, voilà, il faut se lever le matin, le jour des inscriptions et venir. On ne prend pas 10% des gens, mais effectivement, une petite sélection à ce niveau-là. Ensuite, il y a pour le collège, le groupe du collège, il y a une audition. Alors, audition, ce n'est pas un concours d'entrée, hein, on n'est pas au concours de médecine, c'est pas... Voilà. En fait, moi, je veux juste vérifier une chose, c'est que les jeunes qui rentrent sont là parce qu'eux ont envie. Parce que bien sûr, quand on parlait des études musicales, quand on est jeune tout à l'heure, je parlais de mon cas, c'est les parents qui décident pour vous. Alors ça, c'est un sujet aussi, parce qu'évidemment, c'est toujours les mêmes classes sociales que l'on touche. Et ça sera c'est un sujet auquel nous travaillons depuis le début, d'ailleurs, avec Opéra Junior. Donc les jeunes, là, ont une audition. Moi, je vais vérifier qu'ils n'aient pas forcément la voix de la calasse, mais qu'ils aient envie d'être sur scène, qu'ils aient envie de chanter, qu'ils aient envie de bouger. Mais même s'ils sont un peu timides et qu'ils regardent un peu leurs souliers, ou même s'ils sont un peu agités, extravertis, on sait qu'on va pouvoir essayer de les canaliser, on va les prendre. Bon, ça, c'est le concours. On les garde au collège pendant 4-5 ans. Et après, il y a encore une petite audition pour entrer dans le dernier groupe, qui est le groupe des grands, donc le jeune opéra. Ils sont ou lycéens et c'est lycée-fac. Là, on va jusqu'à 23-24 ans. Alors, on a quelques tanguis, il faut les pousser dehors, parce qu'il y a des jeunes qui sont entrés à Opéra Junior à 7 ans et ils ne veulent pas partir. Hein. Bon, on les pousse un peu, mais tout ça est fait très gentiment. C'est-à-dire qu'il y a une date limite maximum, mais si on ne la respecte pas, ce n'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça l'opéra. Vous allez dire, je vais prendre quelqu'un, mais s'il a envie, s'il a du talent, si vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, on est quand même très libre. Et ça, c'est notre chance. Et là aussi, il y a une audition donc, pour rentrer dans cette classe. Alors, cette audition, des fois, elle est mal vécue parce qu'il y a des jeunes qui ont fait 7-8 ans et qui ne passent pas. Et là, effectivement, la compréhension n'est pas toujours évidente. Mais c'est parce que ça, peut-être un jeune va se lasser. Moi, je me suis bien lassé du piano à 14 ans. Il y a des jeunes qui se lassent. S'ils se lassent, alors ils restent parce que... Je parlais du phénomène social très important d'OPJ. C'est pas officier de police judiciaire, OPJ, moi c'est Opéra Junior. Et donc du coup, on garde toujours des gens qui ont envie. On se débrouille pour essayer de les garder.
Alors, je voudrais aborder le choix des œuvres. Quels sont les critères incontournables auxquels vous ne pouvez pas déroger dans le choix d'une œuvre ? Cette année, vous avez choisi Belongings. Est-ce que vous avez des critères financiers, des critères de tessiture, de voix, d'emploi comment ça se passe ?
Alors, on ne va pas parler des critères financiers, parce qu'on va parler d'une crise tout à l'heure en antenne. Donc ça, on la vit, on la gère. Les enfants n'ont pas à rentrer là-dedans. Bien sûr qu'il y a des critères. Moi, ce que je veux quand on choisit une œuvre, d'abord, je veux, c'est que dans leur cursus, entre guillemets, voilà, pas universitaire, mais dans leur cursus à Opéra Junior, les jeunes découvrent un maximum de répertoires différents. D'accord. C'est-à-dire qu'on va sauter du baroque au contemporain, là, ça fait 2 années, on passe par le XXe siècle, la musique du XXe siècle qui est relativement accessible, les compositeurs, même comme Britten, ont énormément écrit pour les jeunes, donc ça se passe bien. Il faut qu'il y ait beaucoup de parties de chœur, puisque Opéra Junior c'est un chœur, et plus il y a de rôles, voilà, plus ils peuvent se partager des rôles, mieux c'est. Il y a des opéras, il y a un répertoire qu'on ne peut pas aborder du tout, c'est le répertoire belcantiste, parce que, comme son nom l'indique, là, c'est de la technique vocale hallucinante et les jeunes ne pourraient pas chanter Lucia de la Mer Morte. Et puis, la Traviata, il y a 3 rôles principaux, et puis le reste, et qui sont inaccessibles pour la jeunesse. Donc, toute cette fin du 19e, ou prima la voce dopo la musica, c'est pas possible. Mais on peut aller dans tous les répertoires de la musique ancienne au 21e siècle, ce que nous faisons avec Belongings, à partir du moment où il y a pour moi, alors c'est un petit peu, beaucoup de chœurs et beaucoup de solistes, que ce soit varié.
Bien. Cette année, je suppose que le critère historique et social de cette œuvre, elle a joué dans votre choix.
Alors moi, je pense que dans tout programmateur d'opéra en général doit tenir compte. Hein, ça, on le sait depuis que l'opéra est né. C'était d'abord le théâtre musical à l'époque. Ça s'appelait comme ça. Ça s'appelait pas l'opéra. On raconte d'abord une histoire aussi. On raconte quelle histoire ? Alors au début, on peut raconter des histoires issues de l'Antiquité, mais généralement aussi, on raconte des histoires de société. Est-ce que les noces de Figaro, de Beaumarchais, de Mozart, c'est des vrais sujets à l'époque où on tape sur la noblesse. Après, la liberté des femmes, Carmen, Traviata, je prends des grands tubes pour que tout le monde se repère. Donc c'est des vrais sujets. Ce qu'on appelle le vérisme en Italie, avec des scènes de la vie de tous les jours. On se retrouve, nous, moi j'ai envie que les jeunes aujourd'hui, l'année dernière on a abordé le sujet du climat, à travers une pièce qui racontait un peu une Greta Thunberg française ou anglaise en révolution contre sa mère, chef d'entreprise d'une entreprise de peinture polluante. Cette année, c'est Belongings, c'est un vrai sujet, parce que quand vous pouvez pas regarder BFM 5 minutes sans savoir qu'il y a des guerres et sans savoir qu'il y a des migrations d'enfants. Et ces jeunes qui partent, ça a commencé avec la Syrie, j'allais dire, ça existe depuis tout le temps, mais là, au 21e siècle, il y a eu la Syrie, il y a eu l'Ukraine, où on a accueillis à Montpellier, les jeunes ont vu des jeunes ukrainiens arriver dans les lycées, dans les écoles. Pour moi, ça, c'était un sujet. Comment ces jeunes réagissent avec « il faut accueillir des gens qui ont traversé le pays en marchant dans la neige pour aller prendre un train en Pologne, arriver en France, en Italie, en Europe ». Donc, c'est un vrai sujet. Et malheureusement, entre le moment où j'ai choisi l'opéra, il y a eu cette horreur au Moyen-Orient, où les gens fuient, ne savent pas où aller dans Gaza, etc. C'est un sujet d'actualité, c'est bien de leur apprendre ça aussi, à travers l'opéra. Parce que l'opéra, c'est ça aussi. Offenbach, pour en parler de choses plus gaies, Offenbach a passé son temps, c'était les guignols de l'info, Offenbach, il passait son temps à se moquer de la société, se moquer de Napoléon III, la grande-duchesse de Gerolstein n'est autre que l'impératrice Eugénie. Voilà, qui était fat en guerre et qui était délaissée par son mari, ben paf, on écrivait une opérette là. Mais on écrit des opéras aussi sur des sujets graves. Et je pense que Opéra Junior est une compagnie d'opéra comme les autres.
Alors on a abordé le livret, j'aimerais qu'on aborde la partition de cette œuvre qui est une partition complexe, hein, et je me demandais si la présence de ce choral de Bach était le signe de l'agneau du sacrifice ou bien l'optimisme de Bach.
En moins de deux minutes, si c'est
en moins de deux minutes. Bach en moins de deux minutes, un sacrilège.
Je sors. Juste sur le compositeur, effectivement, oui. Il a fait des clins d'œil que je trouve magnifiques parce que ce passage de chorale de Bach est absolument extraordinaire. C'est un garçon qui a composé l'œuvre quand il avait 25 ans pour Glyndebourne, c'est une commande. Là, il est venu travailler avec les jeunes, il a 32 ans, il revient la semaine prochaine retravailler avec les jeunes. C'est un compositeur actuel. Je défends la musique actuelle. Je veux dire, on va mourir, on parlait de notre crise, mais là, si vraiment on ne joue pas les compositeurs d'aujourd'hui et les jeunes compositeurs d'aujourd'hui, on va vraiment fermer là. Ou alors on se met une casquette et puis on est tous le musée du Louvre. Mais on ne peut pas continuer à faire du spectacle vivant sans aller vers d'autres formats. Alors ça, c'est une chose, mais aussi vers des nouvelles musiques. Et là, c'est un garçon qui a... Je dirais, il est post-néo-Sibelius, mais il a cette culture de Bach et il est ouvert sur plein de musique, ce qui fait que sa proposition est très fraîche et très intéressante.
Merci.
Vous pouviez développer encore 30 secondes.
J'ai eu peur.
Vous venez d'écouter Le fil du fer de Jérôme Pillement. Trois merci à Stéphane pour la technique, à Hélène Bertrand-Féline pour la co-animation de ce numéro, à l'Opéra et Orchestre National de Montpellier pour son accompagnement.